Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous allons faire une coupure, une pause dans notre étude de l'évangile selon Matthieu. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 84. Psaume 84. Et voici la parole de Dieu. Un psaume qui est donc adressé au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et c'est la parole de Dieu. Augustin d'Hippone, qui a vécu à la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, en Afrique du Nord, qui était un théologien, a écrit dans ses confessions, quand il s'adresse à Dieu, il dit « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Et le docteur Martin Lloyd-Jones, un pasteur gallois qui a exercé la plus grande partie de son ministère à Londres, et écrit dans son livre « The Cross, God's Way of Salvation », qu'on pourrait traduire « La croix, le moyen de salut de Dieu », il écrit ceci. « L'homme par nature, l'homme sans Dieu, est agité. Où pouvons-nous trouver la paix? Où pouvons-nous trouver la tranquillité? Où pouvons-nous trouver le repos et la paix de l'esprit et du cœur? Où pouvons-nous trouver le point où tout est bien et rien ne perturbe? Où est ce lieu? L'homme ne peut pas le trouver. Il est agité. Pourquoi? L'homme, bien qu'il ne le sache pas, a été fait par Dieu. Et il a été fait de telle manière qu'il est dépendant de Dieu. Il y a la chose la plus importante dans l'homme qui ne peut être satisfaite que par Dieu. Rien d'autre ne peut la satisfaire. Et le désir de l'âme pour une demeure, pour un lieu de repos, trouve sans doute son expression la plus complète dans les premiers versets de ce psaume 84 que nous venons de lire. « Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Et c'est le premier point, une demeure en Dieu. Le titre de ce psaume qui, rappelez-vous, était des cantiques, qui étaient chantés par les Israélites, nous indique qu'il a été écrit par les fils de Corée. C'était un clan de la tribu de Lévi. Il servait comme gardien dans les cours du temple. Et il semble que le psalmiste était forcé de s'éloigner du tabernacle. Et de nombreux commentateurs pensent que le psalmiste fuyait avec David, le roi, pendant la révolte d'Absalom. Mais, quelles que soient les circonstances, un psaume d'un cœur qui aspire non seulement au rituel religieux du temple, mais il aspire surtout au Dieu vivant qui habite ou qui habitait dans son temple. Ce psaume 84 est divisé en trois sections qui sont séparées par l'annotation pause. Certaines versions ont gardé le mot Selah, qui est une notation musicale qui veut simplement dire pause. Chaque section est définie par une béatitude, une déclaration de bénédiction. Dans la première et la troisième section, la bénédiction est à la fin, et dans la deuxième section, la bénédiction est au début. La première de ces béatitudes, donc, se trouve au verset 5, à la fin de la première partie. Et elle résume bien le premier point de ce psaume. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Dans son désir pour Dieu, ce Lévite, cet auteur, l'auteur de ce psaume, exalte la béatitude de ceux qui ont Dieu comme demeure. Dans un style qui est poétique, qui est assez beau, le psalmiste exprime son envie pour les oiseaux. Il se souvient que les oiseaux font leur nid dans les cours du temple et il compare son expérience à la sienne. Compare leur expérience à la sienne. Le verset 4, le passereau même trouve une maison. L'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Et là, il soupire, tes autels, éternel des armées. On l'a sans doute remarqué, quand on regarde les animaux autour de nous, il est facile pour les oiseaux, pour les animaux, de trouver un lieu de repos satisfaisant dans ce monde. Ces animaux sont capables de réaliser leurs aspirations les plus élevées dans les choses les plus élémentaires de la vie, que ce soit pour la nourriture, pour le repos, pour la compagnie. On voit un chien qui se repose sur un tapis, un chat qui se prélasse à l'ombre, les oiseaux qui sont installés dans les avant-toits des cours du temple. Mais pas l'homme. Les animaux semblent atteindre un contentement bien au-delà de ce que les humains peuvent trouver dans ce monde. Notre agitation est sans doute expliquée par notre nature spirituelle, une nature qui n'est adaptée qu'à un royaume plus élevé que cette existence actuelle. Et c'est pour ça que le Lévite soupire après Dieu quand il est séparé du temple. Alors bien plus que dans notre époque actuelle, le croyant de l'Ancien Testament s'appuyait sur des cérémonies extérieures. Il s'appuyait sur la structure du temple, il s'appuyait sur le rituel du temple. Et sans ces symboles, sans ces sacrements qui l'amenaient à Dieu, en particulier l'autel sur lequel étaient offerts les sacrifices expiatoires, le cœur du croyant, le cœur du Lévite qui écrit ce psaume, exprime son manque. Verset 3, « Mon âme soupire, mon âme languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » L'homme ne trouve son repos que dans la présence et dans l'adoration de Dieu. Et combien peu de gens le réalisent aujourd'hui? On cherche tous un lieu de repos, un lieu de paix. On cherche tous une appartenance, un contentement, la satisfaction, la joie. Mais le monde aujourd'hui cherche ces choses partout, sauf en Dieu. C'est pour ça que notre génération est si agitée, si insatisfaite, malgré l'abondance sans précédent de richesses et de loisirs. Le monde avance, l'homme avance dans ce monde agité. Il cherche l'excitation dans les choses comme le plaisir, les boissons, les sensations fortes. Est-ce qu'elles apportent une satisfaction? Non. Il ne trouve pas sa demeure dans ces choses. Il ne trouve pas la paix, il ne trouve pas l'accomplissement. Il continue sa quête. Il se donne corps et âme à son travail. Il va atteindre la richesse. Il achète une grande maison, une voiture prestigieuse. Il pense que ces choses-là vont le rendre heureux. Mais elles ne le font pas. Il va relever un défi. Peut-être monter les marches, gravir les marches de sa société. Ou alors gravir une montagne très élevée. Mais quand il est arrivé, quand il y parvient, il est toujours agité. Il ne trouve pas le repos. Un commentateur raconte qu'un jour, un journaliste a interviewé un quarterback légendaire du football américain, Tom Brady, qui avait atteint son objectif de remporter trois Super Bowls. Et Tom Brady disait, voilà, j'ai atteint mon objectif, mon rêve, ma vie, mais je pense que ce doit être plus que cela. Et le journaliste lui pose la question, lui dit, mais quelle est la réponse? Et Tom Brady répond, j'aimerais bien le savoir. Et comme ce joueur, beaucoup de gens passent d'une carrière, d'une histoire d'amour ou adoptent une cause politique, vont même prendre une attitude religieuse, mais peu importe. C'est rien, rien n'est assez grand pour ces personnes. Rien ne satisfait leur âme. L'homme est encore agité. Avec tout ce qu'il a, il n'a pas de paix, pas de demeure pour son esprit. Pourquoi? Parce que seul Dieu est assez grand pour remplir l'âme qu'il a faite pour lui-même. Ce n'est qu'en Dieu qu'un homme, qu'une femme peut s'installer comme un oiseau dans son nid et trouver la paix, la satisfaction, ce désir accompli parce qu'il a trouvé sa demeure. Augustin avait raison. Tu nous as formés pour toi-même. Nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. C'est une façon de décrire ce qu'est un chrétien. Bien entendu, cela signifie que par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais être chrétien, ce n'est pas simplement une sorte de police d'assurance contre le jugement à venir. Être chrétien signifie avoir trouvé sa demeure en Dieu. C'est être satisfait de le connaître, satisfait de le servir, de l'adorer, de vivre devant lui. Et de s'exclamer avec le psalmiste que tes demeures sont aimables, l'Éternel des armées. Le chrétien a trouvé son identité, il a trouvé son but, il a trouvé sa demeure, il a trouvé le lieu de repos, parce qu'il a trouvé Dieu, qu'il a été accepté par Dieu. Et si on a été chrétien pendant un certain temps déjà, on trouve que partout où on voyage, on se sent chez soi, quand on va dans une véritable église, une église où l'évangile est prêché, même si on n'a jamais rencontré les personnes qui sont présentes, même si on ne les connaît pas, on peut être dans une ville à l'étranger, on peut sentir peut-être un peu dépaysé, mais là où le peuple de Dieu se trouve, notre cœur, le cœur du croyant, est au repos. C'est comme si on était à la maison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est notre demeure. Et en adorant avec le peuple de Dieu, là où on est, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est amené au parvis de Dieu. Et on jouit de cette bénédiction. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Mais aucun de nous n'est entré dans le repos final. Dieu nous a trouvés, il nous a fait entrer dans une communion avec lui. Mais on continue encore à le chercher. On devient pèlerin, pèlerin qui voyage, qui traverse ce monde en route vers notre destinée éternelle. Et c'est important pour nous de garder cela en mémoire. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre demeure finale, même si nos cœurs y sont déjà. Notre maison n'est pas de ce monde. Comme Paul le dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux. Et c'est la deuxième image, la deuxième idée dans ce psaume 84 qui commence au verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est le deuxième point, le cœur du pèlerin. Sans aucun doute, ce Lévite exilé, cet auteur du psaume, pense aux pèlerinages, des pèlerinages réguliers qui conduisaient le peuple de Dieu à Jérusalem et qu'il venait de tous les coins du pays. Le calendrier religieux d'Israël était organisé autour de trois grandes fêtes, pour lesquelles tous les Israélites étaient appelés à venir au temple à Jérusalem. Et dans son esprit, le psalmiste voit les flots d'adorateurs se former comme des rivières. Il entend les chants dans leur cœur. Il connaît bien cette sensation des jambes qui retrouvent leur force quand la ville apparaît au-dessus des collines. Il se dit heureux, heureux ceux qui cherchent Dieu. C'est aussi de cette façon que la Bible décrit la vie chrétienne. Notre demeure est avec Dieu, et pourtant notre patrie est encore devant nous. Dans son pèlerinage fidèle, Abraham a été le prototype de la vie de foi. La lettre aux Hébreux le décrit comme un modèle pour nous. Hébreux 11, versets 9 et 10, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, versets 9 et 10. Et le point du psalmiste, c'est que les croyants pèlerins sont bénis. Et dans cette deuxième section, il va montrer pourquoi. Tout d'abord, il dit au verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous avez peut-être une version où il y a l'explication du terme Baca. Baca veut dire pleurer. Peut-être que le psalmiste avait en tête un endroit particulier le long du chemin, qui était un endroit particulièrement difficile pour les voyageurs. Il sait que le pèlerinage jusqu'à Jérusalem implique de nombreuses difficultés. Et peut-être qu'il pense à un endroit en particulier qui était difficile. Et la vie chrétienne comprend de tels lieux, des lieux qui sont des lieux d'épreuve, des lieux d'épreuve qui peuvent être amers, difficiles. L'apôtre Pierre a souligné cela dans sa première lettre, 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Il écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Dieu va utiliser des épreuves pour, d'une part, tester, mais aussi pour faire grandir notre foi. Et l'auteur du psaume 84 parle d'une manière similaire. Il dit que lorsque ceux qui cherchent Dieu passent par la vallée des larmes, il la transforme en lieu plein de sources. Verset 7. Remarquez que ce n'est pas Dieu qui transforme cette vallée, ce sont les pèlerins. Les pèlerins qui provoquent cette transformation par la force qu'ils reçoivent de Dieu. Ils en font un lieu de source. Et cela indique l'influence rédemptrice que les chrétiens peuvent apporter aux douleurs de ce monde à cause de cette relation que le chrétien a avec Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Cela ne veut pas banaliser nos épreuves ou nos peines, mais cela explique pourquoi seul le cœur du pèlerin trouve une telle bénédiction dans un monde comme le nôtre. Ce ne sont pas ceux qui cheminent misérablement qui sont bénis, mais ceux qui ont l'esprit du pèlerin, qui ont la route non seulement sous leurs pieds, mais elle est aussi dans leur cœur. Leur passion est d'avancer dans la connaissance de Dieu pour acquérir une plus grande possession des réalités célestes, pour se rapprocher d'une vision de la ville céleste, de la ville éclatante de Dieu. Et ce désir pour Dieu transforme les peines, les difficultés en bénédictions. Parce que dans nos peines, Dieu rend son amour merveilleux. Et le verset 8 contient une deuxième raison pour laquelle le cœur du pèlerin est béni. Il dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et on peut appliquer cela en particulier au chrétien qui est fatigué, qui est accablé par les péchés, qui considère la vie de foi comme un voyage qui est long et qui peut être frustrant. On se sent en proie au péché. On est découragé par notre faiblesse. Si tout dépendait de notre force, alors effectivement, le pèlerinage est sans espérance. Mais le psalmiste dit, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui se confient en toi. » Pourquoi ? Parce que notre force n'est pas en nous-mêmes. Notre force est en Dieu. On a confiance en ses promesses, on regarde à sa parole, on fixe nos yeux sur la croix où il nous a montré son amour en Jésus-Christ, où il a enlevé la barrière de nos péchés. Et en faisant cela, notre force augmentera jusqu'à ce que nous, comme d'autres avant nous, nous entrions dans les cours célestes de Dieu. Si quelqu'un a un cœur de pèlerin, il ne va pas seulement chercher Dieu, mais il va regarder à lui aussi pour qu'il fournisse tout ce dont on a besoin, pour le pardon de nos péchés, pour la force, pour nous relever quand nous tombons, pour rendre parfaite sa puissance dans notre faiblesse. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le psaume 84 exprime donc un désir pour Dieu, parce que ceux qui demeurent en lui le cherchent avec un cœur de pèlerin. Ils connaissent cette bénédiction de sa part. Et la troisième partie de ce psaume conclut par cette béatitude à la fin du psaume. Verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Le troisième point, donc, sont les leçons sur le chemin de la foi. Dans les versets de cette dernière section, les versets 10 à 13, le psalmiste rapporte les leçons qu'il a apprises sur le chemin de la foi. Il commence par souligner l'importance de la prière. Verset 9, Éternel des armées, écoute ma prière. Par son exemple, le psalmiste montre que le cœur du pèlerin est renforcé par la prière. Parce que ceux qui cherchent réellement Dieu vont se soumettre à lui, vont l'écouter, vont le suivre. Ils se rendent compte que Dieu est proche, qu'il regarde ses enfants, qu'il est toujours prêt à entendre, à répondre, à aider ceux qui regardent, qui font appel à lui. Cette prière spécifique éclaire probablement les circonstances du psalmiste qui demande au verset 10 de regarder la face de ton oint. Beaucoup d'érudits, de spécialistes disent que c'est une référence au roi, peut-être au roi David, avec qui l'auteur du psaume était en compagnie. C'est logique, parce que le psalmiste le décrit au verset 10 comme étant notre bouclier, qui semble dire que le Lévite n'était pas seul. Il était en compagnie de celui qui était oint par le Seigneur, à savoir le roi, à qui Dieu avait fait de grandes promesses. Mais le mot oint en hébreu, c'est aussi le mot messie. Et en lisant cela, le chrétien ne peut s'empêcher de penser au Seigneur Jésus-Christ. De même que le psalmiste a tiré réconfort de la compagnie de David, qu'il a été assuré de la faveur de Dieu, nous regardons à la communion avec Jésus-Christ. Nous regardons à sa compagnie dans laquelle nous marchons comme ses disciples. Et nous prions avec confiance en son nom. Regarde la face de ton oint. Nous savons que, quelles que soient nos circonstances, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus n'abandonne jamais ses brebis. Il est le garant de l'alliance de Dieu en notre faveur. Versets 9 et 10 montrent que les fidèles pèlerins ont accès à Dieu dans la prière, qu'ils marchent en compagnie de celui qui a été oint par Dieu, le roi, le bouclier. Puis au verset 11, le psalmiste ajoute une troisième leçon. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Le psalmiste a appris que le plus petit honneur pieux est beaucoup mieux que la plus grande acclamation du monde, que la bénédiction la moins sainte, si on peut utiliser ce terme, est beaucoup plus douce que la meilleure qui peut être trouvée dans les plaisirs et l'incrédulité de ce monde. Et combien nous sommes lents à apprendre cette leçon? Est-ce qu'on l'a apprise encore? Est-ce qu'on a honte de nous identifier avec le peuple du Seigneur Jésus-Christ ou avec le Seigneur Jésus-Christ tout court? Nous avons beaucoup à apprendre de la spiritualité que le psalmiste exprime, à nous élever à la hauteur de la ferveur de ce psalmiste, de pouvoir dire que tes demeures sont aimables. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mais cette pure expression de dévotion de la part du psalmiste nous fait réaliser ce qu'est véritablement le péché. Le péché, ce n'est pas simplement le fait de briser quelques règles. Le péché, c'est notre échec de nous glorifier en Dieu, comme le psalmiste le fait. Le monde ne sait rien de cette adoration. Il ne donne aucune gloire à Dieu. C'est son grand péché, c'est sa condamnation. Les gens disent qu'ils sont de bonnes personnes, alors qu'en fait, ce sont des ingrats, ce sont des rebelles. Et nous avons ce danger de leur ressembler, de ressembler aux pharisiens, qui vont nettoyer l'extérieur, qui vont faire les choses visibles, et de penser que nous avons atteint le standard requis par Dieu, alors que nos cœurs sont loin, ne s'approchent jamais de ce désir intense qu'exprime le psalmiste ici. À un niveau profond, c'est notre péché, celui de ne pas rendre à Dieu la gloire qu'il mérite, de ne pas lui donner la première place dans notre vie. Nous ne soupirons pas pour le Dieu vivant. Nous estimons davantage les plaisirs de ce monde, les trésors de ce monde qui meurent, qui passent. Nous avons besoin constamment de la miséricorde de Dieu, de ce Dieu qui pardonne. Et nous avons besoin de cette miséricorde, pas simplement au moment où nous avons cru, où Dieu nous a fait cette grâce, mais nous avons besoin de cette miséricorde et de la puissance régénératrice de l'Esprit tout au long de notre pèlerinage. Que nous puissions apprendre cette leçon comme le psalmiste a apprise, qu'un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que mille dans les palais de ce monde méchant. Mais c'est la grâce même que Dieu donne à tous ceux qui la cherchent. Verset 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » C'est la seule fois dans la Bible que Dieu est comparé au soleil. C'est sans doute à cause de l'idée de pèlerinage. Connaître Dieu, c'est comme marcher sous un soleil qui brille, un soleil qui éclaire notre chemin, un soleil qui vient réchauffer notre cœur. Dieu est un soleil, nous dit le psalmiste, il est aussi un bouclier. Il offre la bénédiction, il offre la protection. L'Éternel, verset 12, nous dit « L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Ce sont des choses que le monde ne peut jamais offrir. Une bénédiction auxquelles l'homme du monde n'ose même pas aspirer. Rien de ce que nous faisons ne pourrait le mériter. Mais Dieu rend grâce à son peuple. Le pardon dont nous avons besoin, l'amour auquel nous aspirons, la force qui nous manque, Dieu fait grâce à ceux qui ont confiance en lui. Et de plus, le psalmiste nous dit qu'il rend gloire. Tandis que les hommes et les femmes du monde se vendent pour se divertir ou pour mesurer avec dérision le succès, les richesses, le pouvoir ou leur gloire éphémère, Dieu rend gloire à ceux qui le cherchent. Dans cette vie, il donne la gloire croissante d'un caractère qui devient de plus en plus semblable au caractère de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la vie à venir, il accordera la gloire ultime quand nous le verrons face à face. Le verset 12 dit aussi, « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Le Seigneur retient beaucoup de choses, et ce qu'il retient, ce n'est pas pour notre bien. Si nous le cherchons sincèrement, si nous cherchons sincèrement à trouver notre demeure en Dieu, et même si avec un pas chancelant, nous sortons de ce monde, nous avançons vers le prochain, nous serons aimés de Dieu. Nous serons entourés de son attention, de sa sagesse, de ce Dieu tout-puissant. En Jésus-Christ, il ne nous refuse rien. Comme il le dit, s'il nous a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? C'est pourquoi, avec tout ce que le psalmiste a appris, il termine ce psaume au verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Si on a appris quelque chose, si on met en pratique la foi que Dieu nous a donnée, si on fait notre demeure en Dieu, ce lieu où l'on trouve le repos véritable, la paix véritable, si on suit avec la force qu'il nous donne, nous aussi, nous apprendrons, nous grandirons dans cette confiance en Dieu, comme le psalmiste l'exprime dans ce psaume. On a dit que la seule demeure convenable pour l'âme humaine se trouve en Dieu. Mais comment est-ce que je peux connaître Dieu ? Comment est-ce que je peux le trouver ? Comment est-ce que je peux l'accepter ? La réponse de la Bible, bien sûr, se trouve en Jésus-Christ. Et c'est le dernier point. Je suis le chemin. Dans la dernière soirée que le Seigneur passe avec ses disciples avant sa mort et sa crucifixion, il a parlé avec ses disciples de pèlerinage. Il leur a dit qu'il les précédait dans la maison de Dieu pour préparer une place pour ceux qui allaient le suivre. Et lorsque Thomas, qui doutait déjà, a demandé comment il pouvait connaître le chemin, le Seigneur a répondu, Jean 14, versets 5 et 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et dans ces paroles se trouve la réponse à chaque question posée par le psaume 84. « Je suis le chemin. » C'est Jésus qui révèle Dieu au monde. C'est le Seigneur Jésus dont le sang enlève notre péché. C'est sa justice qui nous habille pour que nous puissions nous tenir devant la sainte présence de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui nous présente comme son peuple pour faire notre demeure dans les parvis célestes de Dieu. Il en est de même de la vie chrétienne en tant que pèlerinage actuel. Il est notre chemin. Nous entrons dans cette vie à la croix. Nous terminerons avec la résurrection. En tant que disciples, en tant que brebis, nous pouvons être sûrs de la protection, de l'aide de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte de cette façon en Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2, « Nous aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont bénis. Nous trouvons en lui tout ce dont nous avons besoin. Et comme le dit au verset 12, il nous accorde grâce et gloire. Dans notre présent, il nous accorde la grâce par la croix. Dans notre destin futur en Christ, nous aurons la gloire, nous serons glorifiés, transformés, rendus parfaits par la résurrection finale. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 3, verset 2, « Nous savons que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Est-ce que nous voulons aimer Dieu comme ce psalmiste le fait? Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Notre présent avec lui est la grâce. Il a enlevé la barrière de notre péché pour que nous puissions connaître la chaleur de Dieu, comme le soleil, que nous connaissions sa faveur comme des rayons de lumière. Notre avenir avec lui est la gloire. Et pour toutes ces difficultés, Job a loué Dieu à cause du Seigneur Jésus-Christ. Job 19, verset 25 et suivant, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Est-ce que nous désirons connaître Dieu comme Job l'exprime ou comme le psalmiste l'exprime? Si la grâce est vraiment notre présent, que la gloire est notre avenir à cause du Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons en cette parole vraie et certaine de la part de Dieu, alors elle grandira. Elle grandira dans notre cœur, elle grandira dans notre âme, jusqu'à ce que notre cœur, notre chair crie à Dieu. Notre force augmentera en chemin, alors que nous avançons vers la demeure éternelle. Et alors que nous approchons, alors que la vision s'éclaire, nos cœurs aussi, comme celui du psalmiste, sont entraînés par Dieu à s'exclamer que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs.